Est-ce qu'une nouvelle guerre se prépare entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? En RDC, le président Félix Tshisekedi a procédé à des changements au sein de l'armée nationale. Le président congolais a désigné le chef de sa sécurité comme chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo dans un contexte marqué par l'arrestation de hauts gradés dans le pays. Commandant de la garde républicaine, unité chargée de protéger le chef de l'État, le lieutenant-général Christian Tshiwewe a remplacé le général d'armée Célestin Bala à la tête de l'armée depuis juillet 2018 sous l'ancien président Joseph Kabila et reconduit à son poste le 21 mai 2019 par le président Tshisekedi. L'ordonnance présidentielle de nouvelle mise en place a été lue à la télévision d'État mardi à l'aube. Longtemps porte-parole de l'armée, le général Léon Richard Kasonga a été désigné chef adjoint de l'armée en charge de l'administration et de la logistique. Le général Jacques Dourou a pour sa part été nommé chef adjoint de l'armée en charge des opérations et des renseignements. Le général Ephraim Kabi Kiriza est le nouveau commandant de la garde républicaine dont il était le chargé des opérations avant sa nomination. Le président opère ses mises en place dans un contexte de soupçons de trahison et de complot contre son pouvoir. En début d'année, le président a mis à l'écart et écroué son conseiller spécial en matière de sécurité, François Béya. En septembre dernier, le chef des opérations militaires dans l'est du pays a été arrêté pour des soupçons d'intelligence avec le Rwanda voisin accusé de soutenir les rebelles du M23. Et dans son discours sans langue de bois à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, Félix Tshisekedi a chargé Paul Kagame et son régime. Le chef de l'État congolais s'était également attaqué au principal argumentaire rwandais par rapport à l'activisme de son armée dans la région de l'Est congolais. Il a également rappelé les cinq axes de son plaidoyer. Premièrement, rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ces groupes terroristes, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda convenue entre la RDC et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, donc la SADC. Ensuite, multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. Et puis appuyer donc la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda, RDC-Rwanda et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétaire général de la CAE d'une part et d'autre part par les FARC et le commandement de cette force. Encourager le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, et le président de l'Angola, donc Lorenzo, médiateur de la CAE et de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, à poursuivre leur bon office. Et enfin, lever tout obstacle à la restructuration par la RDC de ses forces armées et à la montée en puissance de celles-ci pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition des équipements militaires, quelle qu'en soit la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées. De son côté, Antonio Guterres privilégie donc une solution africaine qui passerait par les mécanismes et les pays régionaux. Le secrétaire général des Nations Unies a suggéré un dialogue entre Kinshasa, Kigali et Kampala, particulièrement pour gérer la crise liée au M23. Deux principales initiatives politiques et diplomatiques sont en cours, donc pour parvenir à la désescalade entre Kinshasa et Kigali. Elles sont soutenues par la communauté de l'Afrique de l'Est et l'Union africaine, et il s'agit d'une part du processus de Nairobi placé sous le leadership conjoint du président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, et du président de la RDC, Félix Tshisekedi, et d'autre part du processus de Luanda, conduit donc par le président angolais, donc João Lourenço, mandaté par le 16e sommet extraordinaire des chefs et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Malabo le 28 mai 2022 sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels des gouvernements. Les deux semblent être donc au point mort et en attendant, la situation continue de se dégrader dans l'est de la RDC. La population congolaise montre de plus en plus les crocs face à l'insécurité. Les Congolais ne sont plus décidés à fuir leur terre indéfiniment. Kinshasa doit trouver rapidement une solution en interne et surtout en phase avec la population congolaise, car la situation continue à se dégrader et c'est invivable pour les Congolais. La population dans l'est du pays commence à s'organiser pour ramener la paix dans la région avec ou sans l'aide du gouvernement congolais. Après les nombreuses rencontres entre les autorités maliennes, russes et iraniennes, un bloc est en train de se former qui met l'Occident hors d'état de nuire. Le président Vladimir Poutine et le colonel Assimi Goïta ont eu un important entretien téléphonique ce jour. Au menu de leur discussion, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Poutine en a profité pour adresser une invitation à son homologue malien. Donc il a invité le colonel Assimi Goïta à une importante rencontre en 2023. Cette grande rencontre qui se tiendra à Saint-Pétersbourg regroupera de nombreux invités triés sur le lot. L'invitation personnelle de Poutine au colonel Assimi Goïta est une marque d'attention particulière. Elle dénote du renforcement des relations entre Moscou et Bamako. En plus des questions politiques, les deux hommes ont évoqué donc des questions d'actualité relatives à la poursuite du développement des relations bilatérales, notamment dans le domaine commercial et économique qui ont été abordés. Et à ce sujet, l'initiative de la Russie de faire don au pays dans le besoin d'environ 300 000 tonnes d'engrais bloquées dans les ports européens en raison de sanctions illégitimes a été notée. L'intention mutuelle de renforcer davantage la coopération russo-malienne dans le domaine de la sécurité afin d'éradiquer les groupes terroristes sur tout le territoire du Mali, comme cela a été confirmé, comme l'affirme aussi l'ambassade de Russie à Bamako. Et dans ce partenariat gagnant-gagnant, la Russie veut poursuivre les discussions avec le Mali. Le genre de partenariat qui provoque non seulement l'ire, mais également une énorme crainte de l'Occident et particulièrement des États-Unis. Tout comme l'Iran qui a préservé l'axe de la résistance au Moyen-Orient ou la Russie en Europe, le Mali forme également l'axe de la résistance en Afrique. Au Burkina Faso, à peine arrivé au pouvoir, les nouvelles autorités burkinabées commencent à créer un vent de panique au sein de la France, mais surtout de Washington. Suite au coup d'État de ce vendredi 30 septembre 2022, certaines représentations françaises ont été tout d'abord attaquées par la population comme l'ambassade de France, considérée comme étant un comptoir colonial sur le continent africain. Des attaques qui montrent le ras-le-bol de la population quant à la présence des Occidentaux sur le territoire burkinabé. Mais outre ces attaques, les Burkinabés ont également appelé les autorités à se tourner vers des partenaires comme la Russie. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a d'ailleurs brièvement annoncé vouloir diversifier les partenariats sans pour autant évoquer la Russie. Déjà, Washington commence à mettre la pression sur Ouagadougou. Le gouvernement américain a mis en garde les nouvelles autorités du Burkina Faso contre les risques d'une alliance avec la Russie. Le pays où le groupe Wagner, selon eux, donc a été déployé, se retrouve affaibli et moins sûr. Et nous avons constaté cela dans plusieurs cas, rien qu'en Afrique, a confié à la presse un porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel. Nous condamnons toute tentative d'empirer la situation actuelle au Burkina Faso et nous encourageons fortement le nouveau gouvernement de transition à se conformer au calendrier convenu pour un retour à un gouvernement civil démocratiquement élu, comme a-t-il ajouté. Des paroles qui reflètent parfaitement le culot, donc inouï, des États-Unis, qui osent encore se faire passer pour des sauveurs de l'humanité, alors que partout où ils sont passés, ils ont semé le chaos et la déstabilisation. Rien qu'en Afrique, on constate donc le résultat après le passage des États-Unis, notamment en Somalie, en Libye, au Nigeria ou encore même au Niger, sans compter bien sûr les pays du Moyen-Orient. Ces pays vivent-ils dans la paix et la sécurité actuellement? Tenir des paroles comme cela concernant la Russie est culotté, certes, à moins qu'il ne s'adresse à un public qui vit dans l'ignorance la plus totale. Sinon, le monde entier sait que c'est justement après le passage des troupes américaines ou européennes que les pays cibles en Afrique se retrouvent plongés dans un chaos phénoménal. En somme, les États-Unis demandent aux autorités burkinabées de choisir entre le peuple burkinabé et Washington. Un choix qui devrait être rapidement fait. Si le Burkina Faso décide de se tourner vers les pays comme la Russie ou l'Iran, il est clair qu'il est dans son droit. Maintenant, celui qu'il faut sanctionner, c'est bien Washington qui se permet encore de jouer le sauvage et d'imposer des diktats par la force et la menace.
Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté mardi 4 octobre à Ouagadougou contre la visite d'une délégation ouest-africaine venue évaluer la situation au Burkina Faso, quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois. Brandissant des drapeaux russes et criant des slogans à la gloire de Moscou, les manifestants ont affiché leur hostilité à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et à la France. Non à l'ingérence de la CEDEAO, France dégage, ensemble disons non à la France, ou encore, vive la coopération Russie-Burkina, pouvait-on entendre de la part des manifestants rassemblés sur l'avenue menant à la présidence burkinabé. Un pilote russe a été tué mardi 4 octobre au Mali, dans l'incident de son avion récemment livré à l'armée malienne, qui s'est écrasée près de Gao, a indiqué un responsable militaire sous couvert d'anonymat. L'état-major a confirmé dans un bref communiqué sur les réseaux sociaux qu'un avion s'était écrasé vers 9h30, local et GMT, près de l'aéroport de Gao, au retour d'une mission effectuée en appui aux populations civiles. L'état-major n'a rien dit sur d'éventuelles victimes, ni lui, ni le responsable militaire auprès du commandement de Gao ne se sont prononcés sur les raisons du crash. La signature lundi 3 octobre à Tripoli d'un mémorandum entre la Libye et la Turquie pour la prospection d'hydrocarbures en Méditerranée orientale a provoqué un torrent de réactions mécontentes en Libye, comme au niveau régional. La majorité des responsables politiques à l'ouest libyen n'étaient pas favorables à la signature de cet accord dont le contenu reste ambigu et inconnu de ses responsables. Selon plusieurs observateurs, ce nouvel accord initié par Ankara pourrait balayer d'un revers de main tous les efforts fournis ces derniers mois pour un rapprochement entre la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite, mais aussi entre la Turquie et le camp de l'Est libyen dirigé par Khalifa Haftar. Dimanche dernier, le ministre du pétrole dans le gouvernement d'Ibeiba, réticent à cet accord, a été écarté et d'Ibeiba a chargé le ministère de l'économie de gérer également le ministère du pétrole. Les réactions se sont donc enchaînées. Selon les données du Comité national économique et financier, CNEF, du Cameroun, les 15 banques en activité au Cameroun ont généré un résultat net de 105,4 milliards FCFA en 2021 contre 84,9 milliards FCFA en 2020, soit une hausse de 24,1% en glissement annuel. Celle-ci s'explique principalement par la hausse de 13,6% du PNP ainsi qu'une embellie de 15% du résultat brut d'exploitation couplé à une bonne maîtrise des faits généraux. Les créances nettes en souffrance ont fortement régressé de 152,1 milliards, 4,4%, à 64,5 milliards, 1,7%, soit une baisse de 57,6%. Cette embellie, explique le CNEF, tient surtout des mesures anti-Covid-19 prises par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, pour soulager les établissements bancaires tout au long de l'année.